Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va prier le Seigneur, on va lui confier ce moment. Élève la voix vers ton Dieu. Demande-lui de prendre le contrôle de ce moment. Encore une fois, qu'il nous parle, qu'il nous bénisse, qu'il nous instruise, qu'il nous donne des révélations et qu'il nous indique des choses par rapport à notre vie. Que ce moment soit un moment puissant devant sa face et que ce soit un moment d'édification, de fortification et que le Seigneur nous ouvre les yeux sur tout ce qui n'est pas de lui. Seigneur, bénis-nous ce soir. Répands ta grâce sur la vie de chaque personne dans ce lieu ce soir. Permets, éternel mon Dieu, que nous puissions entrer dans la révélation de ta parole. Et qu'éternel mon Dieu, nous soyons puissamment bénis, Seigneur, et oints. Éternel mon Dieu, accorde-nous des révélations. Et accorde-nous véritablement d'être fortifiés à tous égards. Par ta parole, Seigneur. Et visite-nous ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu, chapitre 10, verset 34. Le Seigneur dit dans sa parole, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ici il dit, ne croyez pas donc que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Quand il parle d'épée, en fait il parle de séparation, mais il parle également de combat. Et donc nous sommes en guerre. Et vous savez que nous avons commencé donc cette série-là sur les stratégies de combat spirituel. Nous avons vu comment vaincre par la louange. Nous avons vu également comment vaincre par les mains levées. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre par le silence, en gardant le silence. Dis à ton voisin, garde le silence. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7 nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Amen. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, il le dit à partir du verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour se taire, verset 7, et il y a un temps pour parler. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas aussi à quel moment il faut parler et à quel moment il faut se taire. Savoir quand il faut se taire est important. Parce que très souvent, vous vous rendez compte que beaucoup de projets que vous avez, beaucoup de choses que vous voulez réaliser, sont avortés tout simplement parce que vous avez parlé trop tôt. Et que c'est tombé dans l'oreille de certaines personnes qui ne voulaient pas voir ces projets-là se réaliser. Il y a des moments où l'on parle. Et il y a des moments où on garde le silence. Amen. Quand faut-il se taire? Quand les temps sont mauvais. Regarde, Amos chapitre 5, verset 13. La Bible dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait. Parce que ces temps sont mauvais. Il y a des temps où tu ne dois pas parler. Quand les temps sont mauvais, des fois tout le monde même, personne n'a envie d'entendre en fait ce que tu as à dire. Personne ne veut savoir ce que tu as à dire. Les gens, par exemple, te jugent, te critiquent, te condamnent. Les gens t'ont déjà condamné avant même de t'avoir écouté. Et des fois, ils viennent te poser des questions, mais en réalité, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la réponse que tu vas leur donner. Ce n'est pas leur problème. Ils te posent des questions pour te condamner. Ils te posent des questions pour te juger. Ils te posent des questions pour émettre un avis sur ta vie ou bien sur ta situation. Mais ils n'ont que faire de ce que tu as à leur donner comme explication. Il faut savoir reconnaître ces temps-là. Et ne même pas leur répondre. Parce que ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. C'est une application un peu d'Amos, chapitre 5, verset 13. Tu as Éphésiens maintenant, chapitre 5, verset 16, qui nous dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Mieux vaut une action qu'une multitude de paroles. Et souvent, on perd énormément de temps à parler au lieu d'agir. Vous voyez, souvent dans les films, il y a toujours un brave et un bandit, n'est-ce pas? Mais moi, je toujours ridicule le bandit. Parce que quand vous regardez bien tous ces films-là, ça finit toujours de la même manière. Le bandit parle trop. Au lieu d'agir, il va dire, bon, voilà, je te tenais, maintenant je t'ai eu, tu vas voir, je vais faire ceci. Et pendant qu'il est en train de parler, il donne le temps à l'autre de se dégager. Et c'est toujours comme ça. Toujours, il y en a un qui va s'étendre dans un discours lyrique, alors que nous sommes au temps de l'action. Et la Bible dit que les temps sont mauvais. Nous sommes dans des temps mauvais, il est important pour toi de savoir à quel moment tu dois parler et à quel moment tu dois te taire. Quand est-ce que tu dois te taire encore? Devant un insensé. Proverbe chapitre 23, verset 9. Proverbe 23, verset 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il y a des personnes à qui ça ne sert à rien de parler. Le moment n'est pas en fait au moment de la parole. Vous pouvez abreuver quelqu'un de parole et de parole et de parole. Et puis toute cette parole-là, ça passe sur lui comme de l'eau. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un, avant de commencer à parler, cherche à savoir si il est prêt à entendre ce que tu as à lui dire. C'est comme ça aussi même dans l'évangélisation. Il ne faut pas parler pour parler. Mais avant tout travail, avant toute évangélisation, il y a un travail qui doit être fait dans la prière. Prie pour la personne, afin que le cœur de la personne soit disposé. Et des fois, la même personne à qui tu dis « Jésus t'aime », qui est tout de suite touchée et qui se répand, qui commence à pleurer sur ses péchés, tu peux lui dire, lui donner 50 versets, lui parler de ta vie, de tes expériences, tout ça, et la personne va te regarder, elle va même pas être touchée par ce que tu dis. Donc, il y a des moments où l'on parle, et il y a des moments où on se tait. Et on agit, ou bien on prie. Amen. C'est très important. Proverbe 26, verset 4 nous dit ceci. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Des fois, les gens viennent t'attaquer. Ils savent très bien que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, mais il va te dire des choses déplacées. Et c'est le moment pour toi de te taire, de montrer que tu es un enfant de Dieu et que tu ne te laisses pas manipuler ou bien que tu ne vas pas tomber dans le péché pour le plaisir de la personne. Non. Tu gardes ton sang-froid, tu gardes ton calme et tu comprends que, en fait, c'est un piège pour pouvoir te faire tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que si tu te conduis comme un insensé, tu es un insensé. Que tu sois chrétien, que tu ailles à l'église ou pas. Amen. Eux, ils savent très bien. Et après, vous allez voir, ils vont vous dire, mais tu n'as pas dit que tu es un chrétien? Et puis, tu te fâches comme ça. Et tous les autres païens sont là et te regardent. C'est toi qu'on voit, parce que c'est toi qui es le chrétien dans l'endroit. Donc, il y a des moments où il faut savoir se taire. Vous savez, nous, comme je vous ai dit, nous, ce sont des stratégies que je vous donne. Des stratégies de combat, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit, il dit, je suis venu apporter la séparation, la division, la guerre. Et des fois même dans votre propre famille, dans votre propre maison, parce que vos frères et vos sœurs, par exemple, ne sont pas convertis, ou bien votre père n'est pas converti. Et il dit, certaines fois, l'opposition viendra de ta famille. Regarde Joseph. Joseph, il a été béni par Dieu, mais Joseph ne savait pas, quand il était jeune, quand est-ce qu'il fallait parler, quand est-ce qu'il fallait se taire. Vous avez vu ce que ça lui a donné? Le matin, il se réveille et commence à parler. J'ai fait un son, j'étais puissant, j'étais béni, vous vous prosterniez devant moi, j'avais ceci, j'avais cela. Et puis il était là seulement, il ne faisait que parler. Qu'est-ce que ça a provoqué? La colère de ses frères. Et ses frères se sont ligués contre lui. Et il a connu des souffrances. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que il pouvait devenir premier ministre sans connaître toutes ces souffrances-là? Pourquoi non? Moi, je pense que Dieu était capable. Dieu est capable. Dieu était capable de l'élever sans que forcément il connaisse l'esclavage ou bien la prison. Il aurait pu avoir d'autres expériences. Bon, ça, de toutes les façons, il a connu la prison et il a connu l'esclavage parce qu'il parlait trop. Plus tard, il a compris. Plus tard, il a compris, puisque lorsqu'il est devenu justement premier ministre et qu'il a vu ses frères, tout de suite qu'il les a vus, il n'a pas dit « Je suis Joseph ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éprouvés d'abord. Il leur a donné des tests, il les a éprouvés, il a essayé de voir si ses frères étaient capables de réagir correctement à l'information qu'il allait leur donner. Au début, il parlait beaucoup, mais vers la fin de sa vie, il parlait très peu. Il observait plus. Alléluia. C'est pour ça qu'on a deux oreilles, on a une bouche. Sinon, Dieu allait nous donner deux bouches. Une bouche parle ici, pendant que l'autre bouche parle là-bas. Il y a des gens qui parlent, ils ne respirent même pas. Ils parlent sans respirer. Donc, on allait avoir une oreille d'un côté avec une bouche d'un côté, une oreille de l'autre avec une bouche de l'autre. Et puis, là, comme ça, on allait parler autant qu'on entend. Mais Dieu nous amène à prendre le temps d'écouter d'abord, d'observer avant de parler. Un insensé, c'est quelqu'un qui est fou. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et sur la terre, il y a beaucoup de gens qui sont insensés. Des personnes qui ont besoin d'être délivrées, des personnes qui ont besoin d'être touché spécialement. Tout à l'heure, la sœur a donné son témoignage. Tous les discours que les gens pouvaient lui donner, ce n'était pas son problème. Il fallait que le Seigneur la touche. D'abord. Pour que son cœur s'ouvre. Avant, elle se conduisait comme une insensée. Maintenant, elle est émerveillée par la puissance de Dieu. Nous devons racheter le temps. Et racheter le temps, ça veut dire faire l'économie du temps. Ça veut dire ne pas gaspiller son temps. Ça veut dire ne pas gaspiller aussi ses paroles. Parce que parler, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et si tu dois racheter le temps, mieux vaut parler aux personnes qui sont disposées à t'écouter que de parler à des gens qui n'ont pas envie de t'écouter. Amen. Même dans l'évangélisation, sachez que une bonne stratégie d'évangélisation, c'est d'apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont soif, à ceux qui le désirent. Les autres, priez pour eux. pour qu'ils aient soif et pour qu'ils le désirent. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on rachète le temps. Mais il y a des moments où il faut parler. Prenez Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ce passage-là nous dit clairement et exactement? Ce passage nous donne une information. C'est que tout ce que l'ennemi ou des gens qui sont contre nous feront contre nous, en termes d'attaque, de sorcellerie, d'incantation à distance et de toutes ces choses-là, ce n'est même pas la peine de te fatiguer à dire quoi que ce soit. Sache que le fait que tu sois un enfant de Dieu, tu es couvert de ces choses. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce que les gens vont envoyer contre toi sera sans effet. Tout ce qu'ils vont faire de loin, à distance, les armes qu'ils vont même utiliser contre toi, ça sera sans effet. Mais, par contre, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un viendra devant toi et va te dire des choses, des paroles de malédiction, ou bien va te dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, sur le champ là, tu vas le reprendre. Amen. Tu vas refuser ces choses-là. Donc, il y a un moment où il faut se taire et il y a un moment où il faut parler. Il y a un moment où il est important pour toi de réagir face aux attaques, lorsque ces attaques-là deviennent verbales et lorsqu'elles sont en face de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je sais que les choses que je ne vois pas, les choses que je n'entends pas, ne peuvent pas avoir d'impact sur ma vie parce que Dieu me dit que c'est ça mon héritage. Il y a des gens qui s'occupent trop de ceux qu'ils ne voient pas. Il est là, mais il s'imagine qu'il y a quelqu'un qui lui en veut là-bas, qui est là-bas. Qui est... Dieu dit ça là, tais-toi, moi je m'occupe de ça. Parce que tu ne vois pas. Par contre, occupe-toi plutôt des choses qui se te sont adressées, qui te sont dites, que tu entends, que tu vois. La personne te parle, la personne te dit, mais toi-même, vraiment, tu vas jamais, c'est à cause de ça que tu ne vas jamais réussir. Sur le champ, là, tu lui dis, tu es vaincu. Je vais réussir au nom de Jésus. Satan a parlé à Jésus. Jésus lui a répondu. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son énergie. Mais il y a des choses qui sont dangereuses si tu les acceptes. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont le fruit des paroles qu'ils ont acceptées. Des fois, ça vient même de leurs parents. Il y a des mères qui ont maudit leurs filles. Toi là, tu ne vas pas te marier. Quand tu entends ça, tu dois répondre. Ah, il dit, il est venu apporter l'épée. Si tu connais la parole de Dieu, bon, il y en a qui n'étaient pas convertis dans le temps. Mais quand quelqu'un te dit ça, tu dois lui dire, non, je suis désolé. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Je me marierai au nom de Jésus. Parce que ne pas répondre, c'est accepter. C'est pour ça qu'il dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, donc c'est comme un jugement. Il prononce une sentence. Il dit, toi, tu la condamneras. Ce n'est pas Dieu qui va s'en charger, mais c'est toi. Lui se charge des armes qui sont forgées contre toi, des plans qui sont faits dans le secret. Il y a un homme qui a dit un jour, Seigneur, occupe-toi de mes amis, parce que mes ennemis, je m'en charge. Il a raison. Parce qu'il y a des gens qui te font croire qu'ils sont tes amis alors qu'ils sont tes ennemis. Ils sont plus dangereux que ceux qui te disent qu'ils sont tes ennemis. Celui qui se déclare comme ton ennemi, tu sais, quand tu le vois, tu es sur tes gardes, tu fais attention. Mais celui que tu crois être ton ami, alors qu'il est ton ennemi, il est dangereux. Parce que c'est à lui que tu vas dire tes plans. Tu dis, écoute, vraiment, je suis sur une grosse affaire. D'ici 2 jours, oh, mon statut va changer. Il dit, ah bon? C'est quelle affaire ça? À 18h30, je dois signer un contrat là. Où ça? Après, tu es surpris de voir que tu as fini de signer le contrat, on t'a remis la mallette, ton truc, et puis des gens débarquent en cagoule, ils t'arrêtent, ils arrachent le truc, ils s'en vont. Ça, c'est le travail de qui, ça? C'est le travail de ton ami. Parce que si tu lui dis tes choses, c'est que tu le considères comme ton ami. C'est pour ça, dans le combat spirituel, tu sais, il y a des moments, il faut savoir se taire, hein, mon frère. Même les pasteurs. Il y a un pasteur qui dit, lui, qu'on ne comprend pas. À chaque fois qu'il dit à ses fidèles qu'il doit voyager, le voyage est annulé. Il y a toujours quelque chose. Je lui ai dit, mon frère, tu ferais mieux de bien prier au lieu de venir. Dès qu'il a un projet, on lui dit seulement au téléphone, bon, on va t'inviter déjà, il vient annoncer que, ah, bientôt, je vais voyager. Non, mon frère, reste tranquille. Tais-toi. Parce que c'est pas tous ceux qui sont assis dans l'église, là, qui veulent te voir avancer, hein. Bizarrement, là où les enfants du diable se réunissent, les enfants de Dieu n'aiment pas trop aller là-bas. Mais là où les enfants de Dieu se réunissent, les enfants du diable, ils aiment ça. Ils s'évitent. Et ils sont là. Et ils envoient des flèches. Ils sont à l'affût des informations pour pouvoir essayer de te contrecarrer. C'est pour ça qu'il faut savoir quand tu dois parler et quand tu dois te taire. Amen. Pourquoi? Parce que tes paroles sont importantes. C'est par tes paroles que tu seras jugé. La Bible dit par tes paroles tu seras jugé. Amen. Et par tes paroles tu seras condamné. Proverbe chapitre 6 verset 2. On va lire quelques passages. Proverbe chapitre 6 verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, et si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Donc ta bouche peut t'enlacer. C'est pour ça que moi, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est quelqu'un qui me dit quelque chose et qui ne fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ça, vraiment, ça me... C'est dur parce que Dieu fait très attention à ça. Il dit, si tu es enlacé par ta bouche, tu dois être quelqu'un qui met comme point d'honneur à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc, si tu es enlacé par ta bouche, ça veut dire que si tu as dit quelque chose, même si tu ne le pensais pas, il te dit comment est-ce que tu dois t'en dégager. Va vers la personne à qui tu as donné l'engagement, à qui tu as dit que tu allais faire. Prosterne-toi-même, attrape ses pieds, demande-lui pardon. Parce que le fait d'avoir donné ta parole et de ne l'avoir pas respectée te fait tomber sous le pouvoir de cette personne-là. Je te dis quelque chose aujourd'hui. Si tu me dis que tu vas me faire quelque chose, que tu vas me donner quelque chose, ou bien que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas au moment où tu as dit que tu allais le faire, quelle que soit la personne, il peut prononcer, même s'il ne parle pas, tu auras des problèmes. C'est sérieux. C'est très sérieux. Le Seigneur a voit ça tellement sérieux qu'il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient de plus vient du diable. Il faut comprendre que tes paroles sont importantes et que tes paroles peuvent te bloquer quelque part. C'est pour ça qu'il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est pas les paroles de la bouche de quelqu'un, ben, tu vois, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Et les gens qui parlent beaucoup vont s'enlacer. Forcément. On ne lui a rien demandé, mais il parle. D'ailleurs, même j'ai un truc comme ça à la maison. Je vais t'apporter ça demain. C'est quand il a fini de dire demain, là. C'est là qu'il se rend compte que il vient de promettre quelque chose. Or, c'est une femme, par exemple, elle n'a pas demandé à son mari s'il est d'accord pour donner. Mais tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Quand tu arrives, tu dis, bon, hé, chérie, j'ai promis de donner le canapé là pour un truc. Tu m'as demandé mon avis? Non, mais bon, comme je me suis engagé là, il dit, mais débrouille-toi. Tu dois aller acheter un canapé pour aller donner. Tu dois le faire. Non, mais la personne va dire non. Non, en fait, bon, je crois que j'ai trop vite parlé. C'est trop facile. Tu t'es enlacé par tes paroles. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'abord avant de parler. Ne t'engage pas. Si tu as un doute, ne t'engage pas. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37 nous dit ceci. Donc, par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, au ciel, c'est par nos paroles qu'on va nous juger. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Vous voyez? Celui qui garde sa bouche, qui veille sur sa bouche garde son âme. Perdre son âme, c'est aller en enfer. Donc celui qui veille sur sa bouche garde son âme. S'engage le salut. S'engage ta vie. Ce que tu dis. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et je fais un clin d'œil à nos sœurs des îles. Les Antillaises, les Martiniquaises. On dirait que c'est un sport national. Une bonne sœur là. Elle parle beaucoup. Je le dis parce que ma mère est antillaise. Et j'ai des tantes qui sont antillaises, des cousines. Qu'elles s'attrapent, c'est 2 heures, 3 heures de parole. Vraiment. Je me demande des fois comment elles font. Il paraît qu'il y a un nombre de mots qu'une femme doit débiter dans la journée. Il paraît. Et que ce nombre-là serait évalué à combien là? Je crois que c'est 10 000 mots dans la journée. Elle doit prononcer 10 000 mots dans la journée. Alors que chez l'homme, c'est 3 000 mots. Donc la femme, dans temps normal, elle parle 3 fois plus que l'homme. Et donc, pour certaines femmes qui n'ont pas trop la possibilité de parler dans la journée, c'est-à-dire qu'entre le matin et puis le soir, au travail, tout ça, peut-être qu'elle a prononcé 2 000 mots. Et donc, le soir, quand elle rentre à 20h, là, elle doit rattraper 8000, elle doit dire 8000 mots. Enfin, ça, c'est les statistiques des psychologues. Hein. Donc, c'est pour ça. Alors que le mari, lui, il est fatigué, il a envie de dormir, la femme a envie de parler. Proverbe chapitre 30, verset 32. Ça, c'est peut-être les femmes du monde, mais les femmes de Dieu, alléluia, elles n'ont pas un quota de mots à débiter. Elles ne sortent que les mots qui sont importants à sortir au moment où il faut les sortir. Alléluia. Proverbe chapitre 30, verset 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Tu vois, c'est tellement pratique et pragmatique. Ce gars-là, il est trop fort. Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Il dit, si, il y a un élan de colère ou de folie ou bien d'orgueil, tu veux prouver aux gens quelque chose, attrape ta bouche. Parce que tu risques de dire des choses que tu vas regretter plus tard. Tu vois, c'est pour te dire que c'est important. Ce qui sort de ta bouche est important. Amen. Et savoir tenir sa bouche, c'est le fort d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser emporter et puis raconter n'importe quoi, dire des choses insultées des fois. Un enfant de Dieu doit veiller sur sa bouche comme il veille sur son âme. Et c'est comme ça que je sais qui est converti, qui ne l'est pas. Qui est un chrétien spirituel et qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de plus que ce que tu dis. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu rencontres un frère là tout de suite, en moins de 2 minutes. Oh frère, vraiment, Dieu me parle. Quand je suis arrêté comme ça là, je reçois des informations. Je suis tellement béni, je suis tellement oint, j'ai l'onction sur moi. Regarde, la dernière fois, j'allais faire un jeûne de 21 jours. Quand je suis ressorti, Dieu m'a dit si, tu vois. Et puis je te dis, moi, en tout cas, personne ne peut me tromper parce que moi, j'ai le discernement des esprits. Je vois dans le monde spirituel. Quand, en moins de 2 minutes, il t'a déjà, je sais pas, il commence comme s'il était un commercial en train de se vendre. Un homme spirituel ne parle pas comme ça. Il n'a pas besoin de dire, Dieu me parle. Il n'a pas besoin de dire, non, moi j'ai l'onction, j'ai l'onction. Il n'a pas besoin de dire, je suis ceci, je suis cela. Un homme spirituel, il va te dire, mon frère. Et puis il va te dire en même temps, tu vas savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Il n'a pas besoin de te dire qu'il fait 21 jours de jeûne. Il n'a pas besoin de te dire qu'il a reçu une vision, il a reçu un songe, il a reçu ceci, il a reçu cela. Il n'a pas besoin de te dire ça. Il vient, il te dit en même temps. Si vraiment il a reçu, tu vas savoir qu'il a reçu. Mais vous savez, les paroles du chrétien, c'est comme ça que vous voyez un insensé. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais quand tu vois par exemple dans Proverbe, il traite également ce sujet. Il te dit que celui qui parle beaucoup, il a l'air d'être un insensé. Et celui qui parle peu, même s'il n'est pas intelligent, il donne toujours l'air d'être intelligent. N'est-ce pas? Vous avez un groupe de personnes là, il y en a qui sont là, ils parlent. Il y en a un qui est toujours là, il ne parle pas. Vous allez le regarder, vous allez dire, mais celui-là, il a l'air intelligent ce gars-là. Et le jour où il va ouvrir sa bouche pour parler, tout le monde va se taire pour écouter ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il parle peu. Comportez-vous un homme sensé. Amen. Je vous ai dit que la matière première de Satan, c'est nos paroles. C'est avec ça qu'il se dirige. C'est avec ça qu'il se conduit. C'est avec ça qu'il sait dans quel état tu es. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il sait ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Quand tu parles trop, tu donnes beaucoup d'informations à Satan. Regardez les murs de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, verset 10. On n'a pas le temps de lire, mais le Seigneur leur a dit, vous allez faire tomber les murs de Jéricho, n'est-ce pas? Mais leur a dit, vous allez faire le tour de Jéricho. Combien de fois? 7 fois. Mais ils vont le faire comment? En étant silencieux. Ils mettent les champs devant, mais ils ne parlent pas. C'était la condition, c'était la consigne. Vous savez pourquoi Dieu leur a dit de ne pas parler? C'était un moment où il fallait garder le silence. Vous savez que pendant qu'ils faisaient le tour de Jéricho, les gens qui habitaient à l'intérieur des murs, ils sont sortis. Vous leur dites, mais, oh, vous pensez que c'est en marchant là que vous allez faire tomber les murailles? Il y en a un qui pouvait dire, l'Éternel nous a dit que c'est comme ça. Oh, mais fou là, vous êtes fou quoi. Donc, tu penses que c'est en marchant autour que les murs vont tomber? Et ils allaient commencer à rentrer dans un dialogue, un discours entre les gens qui étaient dans les murailles et eux qui étaient censés faire tomber les murailles. C'est pour ça que Dieu leur a dit de ne pas parler, parce qu'ils allaient devoir donner des explications, ils allaient devoir discuter. Et quand tu discutes trop là, tu es en train d'annuler ton miracle. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu te demande de faire, tu n'as pas besoin d'aller le dire à gauche et à droite, parce que les gens là, ils ne croient pas en ça. Et si tu parles avec eux, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils vont te convaincre que ce que tu veux faire là, ça va te perdre. Ils vont te contaminer avec le doute. Et puis après, quand ça va pas marcher, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Il y a trop de gens qui ont annulé leur miracle. Le Seigneur m'a dit, hé, ma soeur, viens, je te dis quelque chose. Faut pas dire à quelqu'un. La personne dit, oui, je vais pas dire à quelqu'un. Mais le lendemain, là, toute l'église est au courant. Il paraît, tu vois, la personne t'appelle, il paraît, ou non, mais la personne ne m'a même pas dit, il paraît. Quand il prend même là, il dit, je vais te dire quelque chose. Mais faut pas dire à quelqu'un. Parce que si tu dis là, la personne va savoir que c'est moi qui t'ai dit. Oh, il n'y a pas de problème. Toi aussi, est-ce que moi j'ai déjà trahi un secret? Faut dire. Et c'est comme ça que ce que Dieu t'a dit dans le secret est en train d'aller partout, de se diffuser. Et c'est là maintenant qu'on t'appelle, on dit, ah bon? Regardez, quand Abraham est allé sacrifier son fils Isaac, il ne l'a pas dit à quelqu'un. Il a gardé le silence, même pas à sa femme. Parce que s'il le faisait, il n'allait jamais sacrifier Isaac. Sa femme lui dit, mais attends, Abraham, tu as oublié ou bien quoi? Tu n'as pas vu les années qu'on a souffert avant d'avoir cet enfant-là? Tu penses que c'est Dieu vraiment qui t'a dit d'aller le sacrifier? Mais pourquoi lui-même, il ne le prend pas alors? Il est puissant pour le prendre, non? Pourquoi c'est à toi qu'il demande de le prendre? Il n'a qu'à le prendre lui-même. Tu vois? Et les raisonnements vont t'emmener à t'écarter de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Abraham n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il voulait agir. Il voulait obéir. Et son obéissance a déclenché la bénédiction dans sa vie. Il y a des personnes à qui Dieu te demande de poser un acte. Il te demande de faire quelque chose. La meilleure manière de ne pas faire cette chose-là, c'est d'en parler à quelqu'un d'autre. Tu vas voir. Quelle que soit la chose. Il va te dire, tu es sûr? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Tu es sûr que c'est Dieu? Attends. Il pense que tu as enregistré la voix de Dieu sur un magnétophone ou bien quoi? Tu vois, Dieu te parle dans ton esprit. Et donc, tu ne peux pas lui faire écouter ce que Dieu t'a dit, mais il va te faire douter de ça. Dis à ton voisin, garde le silence. Des fois, il y en a qui doivent marcher autour de leur mur de Jéricho. Il y a un miracle qui est tellement gros que Dieu doit faire dans ta vie. Il ne l'a pas encore fait pour quelqu'un d'autre. En parler avec quelqu'un d'autre va emmener cette personne-là à te faire descendre dans ta foi. C'est tellement grand, c'est tellement gros. Dieu t'a dit à toi, quand il a dit, tes yeux se sont allumés. Tu as dit, ah, Seigneur, tu vas faire ça pour moi. Oh Seigneur, vraiment, c'est merveilleux. Garde ça pour toi. Et marche autour de ton mur de Jéricho. Parce que s'il y a de la puissance dans les cris, c'est parce qu'il y a de la puissance aussi dans le silence. Tu fais ton chemin. Tu marches autour de ton mur. Les gens te disent, hey, mon frère, vraiment, depuis là, tu pries le Seigneur. On dirait que Dieu t'a oublié. Continue ton chemin. Mon frère, avant là, tu démarrais, mais maintenant, on dirait que c'est Dieu sur toi. Tu attrapes ta bouche. Parce que tu as envie de lui répondre tout de suite, mais vraiment, tu attrapes ta bouche, tu continues ton chemin. Ah, frère! La dernière fois, tu n'as pas dit que tu allais avoir une nouvelle voiture là. Où est la voiture maintenant? Là, tu as envie de réagir, mais tu attrapes ta bouche, tu continues. Pourquoi? Parce que si tu réagis, tu vas gâter ton miracle. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Tu vas réagir, tu vas dire, mais toi-même, tu penses que quoi? Moi, même quand j'étais dans le monde, là, j'avais encore plus de voitures que ça. Oui, c'est vrai, mais actuellement, tu n'es pas dans le monde. Oui, mais, hey, tu... l'onction parle en même temps, mon frère, parce que c'est l'objectif de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut même pas donner la roue. Tu fais le tour de ton mur de Jéricho, tu gardes le silence. Alléluia. De toute façon, quand le mur de Jéricho va tomber, il va savoir ce que tu es en train de faire. Quand le mur de Jéricho va tomber, c'est là qu'il va savoir ce que tu étais en train de faire. Mais il ne faut pas aller dire, bon, les gars de Jéricho, là, on va faire tomber votre mur, hein, on va marcher autour du mur pendant 7 jours et puis le 7e jour, on va crier. Moi, honnêtement, je crois que le fait d'avoir marché en gardant le silence, là, ça a trop contribué à la chute de Jéricho, quoi. Parce que moi, je m'imagine comment je vais réagir si je vois un individu qui vient tourner autour de ma maison pendant 7 jours. Tu vois le frère qui passe comme ça. Il passe comme ça. Un moment, tu vas commencer à tourner toi-même comme ça. Tu vas attraper le vertige. Les gens de Jéricho se posaient des questions. Ça les empêchait de dormir. À un moment, attends, le premier jour, certainement tu te dis, mais le gars, il doit avoir pété un boulon. Le deuxième jour, bon, il a certainement pété deux boulons. Le troisième jour, ah, mais c'est plus grave que je ne pensais. Le quatrième jour, c'est « Ah, vraiment, qu'est-ce que c'est, j'ai la nouvelle ?» Le cinquième jour, tu ne vas plus dormir. Parce que tu vas commencer à être angoissé, à avoir des... Vraiment, ça va te susciter énormément d'interrogations. Et les gens de Jéricho, maintenant, commencent à discuter. « Mais attends, d'après toi, qu'est-ce que les gars-là sont en train de faire ?»« Oh, oh, vous faites quoi même ?» Ils sont là seulement, ils marchent. Vous savez, les murs de Jéricho, ils étaient aussi larges qu'ils étaient hauts. Donc, ça servait à rien de les pousser. Parce que si le mur tombait, il allait être aussi haut qu'il était auparavant. La seule manière pour pouvoir faire tomber ces murs, c'était la plus grande forteresse du temps. Des murs fortifiés. Trois chars pouvaient passer en même temps sur les murs. Ces murs-là ne sont pas tombés. Ces murs-là sont entrés dans le sol. C'était insensé dans le temps de croire qu'en marchant autour d'un mur, on pouvait le faire tomber. Mais Dieu l'a fait. Parce qu'ils ont respecté ce que Dieu leur a demandé de faire, de se taire. Quand Dieu est en train de faire quelque chose de spécial dans ta vie, et que tu parles, ça ne sera plus spécial. Attends que le miracle se fasse. Attends que le miracle soit évident pour tout le monde. Attends que la chose soit réalisée. Et là, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de parler de toutes les façons. Parce que tout le monde aura vu. Il y a des gens qui parlent parce qu'on ne voit pas. Quand il parle parce qu'il veut t'amener à voir quelque chose que tu ne vois pas. J'ai ceci, je fais cela. Ah, moi, je suis comme ci, ah, je suis comme ça. Ah, mais je suis comme ça. Mais attends, s'il était vraiment comme ça, il n'allait pas avoir besoin de parler. Ça allait se voir. Amen. C'est pour ça que toi aussi, mieux vaut travailler sur le témoignage que de t'étendre dans les paroles. Regarde aussi les amis de Job. Dans Job chapitre 2, verset 13. Job venait d'avoir ses problèmes. Dans Job chapitre 2, verset 13, la Bible dit, « Et il se tint assis auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. » Amen. Tu vois, des fois, il ne faut pas trop parler. Une courte prière, une seule parole d'encouragement, « Mon frère, ça va aller. Fortifie-toi, prends courage. » Je te soutiens. Tu le dis, mais tu le fais également. Et tu n'as pas besoin de trop parler. Une parole ointe du Saint-Esprit va faire énormément de bien. Et il y a des moments, dans les temps de funérailles, par exemple, ou bien quand quelqu'un vient te demander de l'aide, c'est pas à ce moment-là que tu as fait le discours. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Si tu ne peux pas, tu lui dis, je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. Mais la personne vient te dire, aide-moi. Ah. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, maintenant, tu me connais. Tu as tourné jusqu'à, maintenant, tu es venu. Tu te rappelles, il y a 3 ans de cela, quand moi-même, j'étais venu te voir, mon frère, ok, que Dieu te bénisse. Mieux vaut, quand le gars commence à faire son introduction, mieux vaut prendre ta route parce que ou bien il veut t'aider ou bien il ne le veut pas. C'est pour ça que toi aussi, il ne faut pas multiplier les paroles. Il y a des gens, c'est au funérailles qui trouvent le moyen de faire des longs discours. Le frère vient de perdre par exemple son épouse. Ou bien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis à ton voisin, garde le silence. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 37, donc, que vos paroles soient oui, oui ou non, non. Car ce qui vient de plus vient du malin. Amen. Et souvent après ces miracles, lorsqu'il accomplissait un miracle, il disait, il recommandait aux gens de ne rien dire. Il sait pourquoi. À certains moments, il dit, va te présenter. À d'autres moments, il dit, bon, va rendre témoignage. Mais à d'autres moments, il leur dit, n'en parlez pas. C'est pas la peine d'en parler parce que vous allez aller susciter, provoquer une persécution avant l'heure de la persécution. Il y a des gens qui sont persécutés, mais c'est eux-mêmes qui cherchent la persécution. Exode chapitre 14, verset 14, on va finir. Exode chapitre 14, verset 14. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Exode chapitre 14, verset 14. C'est lui qui le dit. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Tu vois, il y a des moments où le temps n'est pas autant des paroles, des cris, des pleurs et même des fois des prières. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Pourquoi ces cris? Dieu vous a délivré de la main des Égyptiens. Ils vous ont dit de partir. Ils vous ont donné des richesses, ils vous ont donné des biens. Vous arrivez devant la mer rouge, vous voyez la mer, vous commencez à pleurer. Non? Le même Dieu qui vous a sorti des mains des Égyptiens, là, il sait comment il va vous faire traverser la mer rouge. Mais il avait affaire à un peuple qui passait son temps à se plaindre, et à parler, et à critiquer. Et quelqu'un qui se dit spirituel, quand il critique, tu sais que c'est un homme qui est charnel qui est là. Vous avez dit, non, nous en Afrique, on dit les viandelles. C'est encore plus expressif. Le gars, il est toujours en train de parler. C'est lui qui voit toujours que ça, c'est pas bien, et ça, c'est... Ben, si c'est pas bien, va soulever. Si tu vois que la moquette est sale, va la changer. Si tu ne changes pas, laisse la moquette comme ça, c'est que la moquette, elle est bien. Si le frère qui chante ne chante pas bien, va prendre le micro, faut chanter à sa place. Tu dis, frère, excuse-moi, je crois que tu chantes très mal. Le prochain culte, je vais l'animer. On va te donner le micro. Amen. Sinon, encourage-le, prie pour lui, intercède pour lui. C'est là qu'on va voir ta spiritualité. Tu dis, ah frère, je te soutiens. Chaque soir, Seigneur mon Dieu, donne une belle voix à mon frère. Permets qu'il arrête les dégommages. Donne-lui l'onction, Seigneur, je t'en supplie. Chaque soir, tu intercèdes pour lui. Parce que quand il dégame, là, ça te fait mal aux oreilles. Donc, tu intercèdes pour lui pour que vraiment les dégommages s'arrêtent. Non, mais pas en public. Tu pries dans ta chambre, tu pries. Voilà. Amen. Tu appelles le frère de côté, peut-être tu peux lui dire, ah, mon frère, vraiment, ça va aller, Dieu te soutient. Alléluia. Et tu continues ton chemin. C'est ça, les gens spirituels. Mais quand tu as quelqu'un qui parle, il parle. Lui seul, il parle seulement. Tu vois. Garde le silence. Dis à ton voisin, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Amen. Garde le silence. Qui ce soir est en train de marcher autour de son Jéricho? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est en face d'un grand miracle qui doit s'accomplir dans sa vie? Tu es en train de marcher autour de ton Jéricho. J'espère que tu n'as pas déjà parlé. Hein? Tu as déjà annoncé ça sur RFI. Tu as déjà parlé? Ah. Ceux qui ont déjà parlé, là, venez, on va prier pour vous. Ça, oui, oui, venez, venez, venez. Ah, ils sont nombreux, hein? Ah bon? Vous comprenez pourquoi les chrétiens disent que mais depuis là, Dieu n'agit pas. T'imagines? C'est toute l'église là. Avancez, avancez, avancez. c'est un vrai problème. Dis à ton voisin, tu parles trop. My God. My God. Toi, si tu es dedans. Il y a des gens qui sont dedans, ils sont assis là-bas. On n'expose pas de problème sans donner de solution. Amen. Dieu t'a dit qu'il allait faire quelque chose pour toi. Et au lieu de le garder pour toi jusqu'à l'accomplissement, tu allais raconter ça à d'autres personnes. Que ce soit tes amis ou que ce soit tes ennemis, tu n'as pas à leur en parler jusqu'à ce que Dieu accomplisse son miracle. Alléluia. Il a dit, moi je combattrai pour toi et toi garde le silence. Il y a des moments où tu ne dois pas exposer au grand jour ce que Dieu a dit qu'il allait faire jusqu'à ce qu'il le fasse. Si Dieu veut le lui révéler, il le lui révélera. Lorraine, parole de connaissance. Ah, ma soeur, vraiment, on dirait que Dieu veut faire ça dans ta vie. Tu vas dire, ah, vraiment, Dieu t'a parlé. Mais il y a des gens qui sont surpris. Ah, c'est une prophétie. Alors qu'il a entendu ça, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Ce n'est pas une prophétie. Il y a des gens, ils entendent quelque chose. Et puis, ils t'appellent. J'ai fait un songe. Dieu m'a montré. Oh, Dieu ne t'a rien montré. Quelqu'un t'a raconté quelque chose, tu as entendu et tu as transformé ça en songe. Est-ce que vous comprenez? Des fois, c'est vous-même. Vous dites à la personne maintenant vous ramène ça sous forme de songe. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Aujourd'hui, on va prier. On va prier et on va demander au Seigneur de toucher notre bouche. Vous savez, quand Ésaïe a vu Dieu, la première chose dont il s'est rendu compte, c'est que sa bouche était sale. On va prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour avoir parlé trop vite et pour avoir dévoilé ses plans pour toi. Prie ton Dieu, maintenant. Il faut te repentir. Alléluia, alléluia. Tu vas t'engager devant le Seigneur à ne plus jamais recommencer. Tu vas lui dire que tu vas plus jamais recommencer, que tu vas plus dévoiler ses plans pour toi, les plans qu'il te partagera. Parce que certains au milieu de nous, tu n'as plus reçu quoi que ce soit de Dieu depuis la dernière fois où tu as divulgué ses plans pour toi. Tu vas lui dire, si tu veux encore entendre Dieu te parler, et si tu veux encore entendre Dieu te dire ce qu'il veut faire avec toi et ce qu'il veut faire de toi, tu vas prendre l'engagement devant lui de ne plus aller raconter ta vie à gauche et à droite, mais de garder ces choses-là pour toi jusqu'à leur exaucement. Prie ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que ton sang lave ma bouche. Et chaque parole qui sortira de ma bouche à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que toutes les paroles qui sont sorties dans le passé soient couvertes par le sang de l'agneau. Si j'ai divulgué
ou dévoilé
des secrets, que ces secrets soient effacés du monde spirituel et des ennemis de mon âme. Seigneur, lave ma bouche. Déjà, à ce moment-là même, déjà, il y a des personnes qui sentent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans sa bouche. Une fois, j'ai fait une prière comme ça, c'était dangereux, la délivrance, c'était terrible. Vous pouvez pas vous imaginer, parce qu'il y a des gens, il y a un démon de mensonge qui est arrêté sur leur langue. Ils ouvrent la bouche pour mentir. Les gens qui parlent trop aussi. My God, quelle présence. Il y a une onction actuellement au milieu de nous. Oh, il y a une onction actuellement. My God, my God, my God. Il y a une libération pour quelqu'un. La Bible déclare que quand Isaïe a vu le trône de l'Éternel, il s'est rendu compte de la sainteté de sa bouche et de ses lèvres. Quand quelqu'un est touché par Dieu, il y a des paroles et des mots qui ne peuvent plus sortir de sa bouche. My God, my God, my God, my God. My God. Seigneur, lave ma bouche. Purifie-la. Nettoie-la. Que ton sang la nettoie et la rende pure et la rende sainte au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume dans ma bouche tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tout ce qui sort de ma bouche, à partir d'aujourd'hui, soit sanctifié, soit sanctifié, soit purifié, soit nettoyé. Vous avez vu ce que Salomon a dit? Il dit, mets ta main sur ta bouche si tu es dans la colère, si tu veux dire quelque chose. Tu vas lever ta main maintenant, ta main droite, tu vas la lever. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Parce que l'onction nous est accordée pour nous libérer de l'influence négative de notre bouche sur notre vie. Ce soir, tout ce qui a été détruit par ma bouche est ressuscité au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui a été défait par ma bouche est restauré au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui a été annulé par ma bouche reprend vie au nom de Jésus. Que ton onction scelle ces choses et que ma vie connaisse un changement réel. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour l'onction, Seigneur. Lève bien la main droite maintenant. Merci pour l'onction que tu déposes dans ma main. Garde les mains levées. Reste dans la présence de Dieu. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Parce que dans cette salle, partout dans cette salle, toutes les personnes qui sont ici et qui ont la foi, Seigneur, que ce que tu as dit vient véritablement de toi et que les choses doivent changer dans leur vie. Parce que leur bouche va changer, Seigneur. Que l'onction leur soit communiquée maintenant. Que l'onction leur soit communiquée maintenant. Que ses mains la reçoivent l'onction maintenant. Que ses mains la reçoivent l'onction. Que ses mains la reçoivent l'onction maintenant. Car la Bible déclare que l'onction brisera le joug. L'onction brisera le joug. Maintenant, tu vas prendre cette main-là et tu vas la mettre sur ta bouche maintenant. Mets cette main sur ta bouche. Laisse-moi prier pour toi. Ce n'est pas le moment de parler. Maintenant, garde le silence. Voilà. Mets ta main sur ta bouche. Père éternel, tu as dit dans ta parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Seigneur, je décrète maintenant que ces bouches vont commencer à produire du fruit. Du fruit pour la vie de tes enfants. Tout ce qui est parole de mort, tout ce qui est parole de condamnation, tout ce qui est parole de jugement, tout ce qui est parole de destruction est brisé. Et toute influence de ces paroles dans leur vie est brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ces paroles prononceront la vie. Ces paroles prononceront l'abondance, la multiplication, la joie, la paix, la force, l'amour. Je consacre maintenant ces bouches comme étant des instruments de bénédiction et non de malédiction. Comme étant des instruments de prospérité et non de pauvreté. Comme étant des instruments de multiplication et non de division. Comme étant des instruments d'abondance et non de sécheresse. Accomplis ta parole, Seigneur, et que cette armée nombreuse, avec la bouche consacrée à la gloire de Dieu, puisse se lever et sortir pour amener le monde à croire en ta puissance et en ta gloire. Que ton nom soit béni. Et le peuple de Dieu dit amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur et vous pouvez retourner vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.